Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Il n'y a pas que le 8 mars ». Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et bonjour Natacha.
Bonjour Elodie.
Et bonjour à nos invités.
Bonjour.
On vous retrouvera un petit peu plus tard. Une émission spéciale en lien avec un événement qui revient chaque année aux arrières de Brou, le festival Brin de Cirque.
Oui, en ce mois de mai, nous, on va faire un petit pas de côté. Un pas de côté, mais on n'oubliera pas les femmes d'ici qui sont obligées de jongler pour boucler les fins de mois. Et à celles mal accompagnées qui subissent des violences, on ne va pas oublier non plus les femmes qui vivent et qui résistent dans les pays privés de liberté, assaillies par les fous de ce monde. Mais...
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B. Et pour ne pas déroger à la règle, en préambule, notre traditionnelle revue historique avec toi, Michel. Et là, on monte dans la machine à remonter le temps.
Alors, dans l'Antiquité, pour commencer, le concept de cirque est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais la présence des femmes est attestée. Acrobates, on en trouve par exemple reproduites sur les vases grecs, ou mimes qui jouent des scènes grivoises. À Rome, des femmes ont combattu dans les arènes, les amphithéâtres, on les appelait les gladiatrices. Des combats de femmes contre des nains ou des bêtes sauvages sont mentionnés. Des inscriptions suggèrent que des femmes ont pu participer à des courses de chars mineures ou lors de fêtes spécifiques. La célèbre mosaïque de la Villa del Casale en Sicile, qui date du IVe siècle, montre des femmes en bikini, pratiquant le lancer de disques, le saut et la course.
Et comment sont perçues ces femmes à cette époque ?
Bien sûr, à Rome comme en Grèce, ces femmes sont frappées d'infamie. Aucun droit civique et elles sont considérées comme des prostituées. Au Moyen-Âge, le cirque en tant qu'institution n'existe plus. Les spectacles deviennent itinérants et se déplacent de foire en château. La figure centrale est alors la saltimbanque ou jongleresse qui pratique l'acrobatie, la danse, la musique et le dressage. Elle présente par exemple souvent des petits animaux savants, des marmottes, des oiseaux, des chiens. Les femmes de spectacle au Moyen-Âge sont exclues de la communauté chrétienne, bien sûr. Elles ne sont pas honorables, elles n'ont souvent pas le droit à une sépulture en terre consacrée.
Ça fait penser à Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, là, condamnée à un moment pour sorcellerie, parce qu'elle a apprivoisé une chèvre.
Oui, par contre, ce sont les rares femmes de l'époque à voyager librement, à gagner leur propre argent et à ne pas être sous la tutelle directe d'un père ou d'un mari sédentaire. Elles font partie souvent de compagnies familiales où la solidarité est vitale. À la Renaissance, le monde du spectacle se structure. C'est une période de transition où l'on commence à voir les prémices du cirque moderne. Sous l'influence de la Commedia dell'arte, les femmes montent sur les planches pour jouer la comédie. Elles doivent savoir chanter, danser et réaliser des prouesses physiques, comme des sauts, des chutes comiques. À Paris, des structures semi-permanentes s'installent, les foires. On y trouve des funambules, les femmes deviennent les stars du fil de fer. On commence à porter une attention particulière aux costumes. La femme du spectacle devient une figure de mode, même si elle reste toujours un peu scandaleuse, car elle montre ses chevilles et ses jambes pour les besoins de l'équilibre.
Et puis, on s'intéresse aussi à des particularités physiques dites hors normes.
Oui, les premières femmes fortes font leur apparition, capables de briser des chaînes ou de porter des enclumes, préfigurant les numéros de force du XIXe siècle. Le statut de la femme artiste reste précaire. Cependant, au sein des familles de saltimbanques, la femme est souvent la gestionnaire. C'est elle qui tient la caisse et organise les déplacements de la troupe. Au XVIIIe, tout bascule. On passe de la fête de foire désordonnée à la naissance du cirque moderne. L'équitation sert de moteur à cette révolution. Au départ, une écuyère tient debout sur un cheval, puis les femmes ne se contentent plus de tenir debout. Elles deviennent des techniciennes hors pair. À une époque où le cheval est le symbole de la noblesse et du pouvoir masculin, Voir une femme dresser des étalons avec une main de fer dans un gant de velours fascine. Pour réaliser des acrobaties à cheval, la robe à panier ou le jupon long est impossible. Les écuyères adoptent des tenues plus ajustées ou portent des culottes sous leur jupe qu'elles soulèvent pour bouger. C'est un acte d'une audace folle pour l'époque. Le cirque devient l'un des rares lieux publics où l'on peut voir les formes du corps féminin en mouvement sans que cela soit immédiatement associé à de la débauche. C'est justifié par l'exploit sportif. À la fin du XVIIIe, le cirque olympique des Franconi s'installe à Paris. Les femmes y deviennent des actrices de pantomime équestre. Elles jouent des rôles d'héroïnes, de guerrières et de déesses, mélangeant le théâtre et l'acrobatie. Elles sont admirées par les intellectuels et les artistes de l'époque.
Et un tournant s'opère au XIXe siècle.
C'est le siècle de l'émancipation par le spectacle. Le cirque devient l'industrie culturelle la plus populaire au monde et les femmes en sont les icônes absolues. Les écuyères ne sont plus seulement des cavalières, ce sont des divas. Apparaissent les trapézistes avec beaucoup de prises de risques que le public adore, puis les dompteuses qui portent des lions sur leurs épaules et les nourrissent à la main. Elles symbolisent la femme nouvelle, celle qui ne craint rien, pas même les prédateurs les plus féroces, brisant l'image de la femme fragile et craintive. À la fin du XIXe, le cirque est un empire. Les femmes commencent à occuper des postes de direction. On voit par exemple des veuves de directeurs, comme la mère Grusse, reprendre les rênes des établissements et gérer des centaines d'employés, des ménageries et des chapiteaux immenses.
Et des grands noms apparaissent au XXe.
Voilà, le XXe est celui de la métamorphose. On voit arriver les femmes clowns, comme Annie Fratellini. En 1971, elle devient la première femme clown blanc en France. Avec son mari, Pierre Etex, elle fonde l'École nationale du cirque. Dans la seconde moitié du siècle, les femmes ne sont plus seulement les étoiles de la piste, elles deviennent les cerveaux des entreprises. On connaît Rosa Buglione, matriarche du cirque d'hiver. Elle représentait la mémoire et la gestion de fer des dynasties circassiennes. On connaît aussi Sylvia Montfort, actrice et directrice. Elle a joué un rôle crucial dans la reconnaissance du cirque comme art à part entière auprès du ministère de la Culture en France.
Et avec les années 70, le nouveau cirque arrive.
Voilà, avec la contestation sociale des années 70, le cirque va se réinventer. On abandonne souvent les animaux et les costumes à paillettes. Le corps est utilisé comme message. Les artistes femmes, celles du cirque Plume, par exemple, ou de la compagnie Arcaos, utilisent le trapèze ou la corde lisse pour raconter des histoires politiques, féministes ou philosophiques. On voit apparaître des porteuses. Sont les femmes qui portent les hommes dans les numéros d'acrobatie au sol, renversant totalement les rapports de force physique traditionnels.
Et alors aujourd'hui, on serait dans l'ère de l'égalité totale ?
Aujourd'hui, le cirque est l'un des arts les plus paritaires. Le corps féminin n'est plus un objet esthétique, mais un support de mémoire et de résistance. Des spectacles comme Body Territory, compagnie Betterland en 2026, utilise les techniques circassiennes, cordes lisses, lancer de couteau, pour raconter les violences faites aux femmes et la reconstruction physique. La tendance est à l'effacement de la prouesse pure. Le corps féminin est utilisé pour porter une parole, souvent engagée, où le mouvement sert de prolongement à un texte ou à un témoignage. L'une des tendances techniques les plus fortes est la remise en question de la binarité porteur, homme, voltigeuse, femme. L'évolution du rôle des femmes au cirque ne se joue pas seulement sur scène, mais aussi dans la manière dont elles sont formées. En 2024-2026, les écoles supérieures de cirque, le CNAC, l'Académie Fratellini, sont devenues des laboratoires de ces nouvelles tendances. Les écoles encouragent les étudiantes à s'emparer des disciplines masculines. Les formations intègrent des modules où les femmes apprennent à être porteuses et pas seulement voltigeuses. Sous l'impulsion du ministère de la Culture, un plan massif de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel est déployé pour la période 2025-2027. Des écoles comme l'Estacto Lido ont mis en place des chartes d'égalité et d'inclusion très strictes. Elles visent à protéger le corps des artistes, souvent très exposés par la nature de l'entraînement, et à garantir un environnement de travail respectueux. On s'éloigne du corps pailleté. La tendance est au costume de travail ou à la nudité partielle qui montre les cicatrices, les muscles saillants et la sueur, revendiquant ainsi un corps de travailleuse plutôt qu'un corps de poupée. En 2024, 64% des candidats au concours d'entrée étaient des femmes. Le cirque s'affirme désormais comme un outil de lutte contre le patriarcat et les injonctions de beauté.
Une musique Allegra Cuillère, Joie et Volonté, c'était une musique issue du spectacle du Cirque du Soleil, portée, envolée, trapèze, clown, costume, décor, scénographie travaillée. Le Cirque du Soleil, c'est une compagnie canadienne qu'on appelait le Cirque Contemporain quand elle fut créée dans les années 80-84.
Et un collectif de femmes en France qui s'appelle le projet .pdf crée des spectacles entièrement composés de femmes ou minorités de genre. Coraline Léger, porteuse, mais pas que, dans le collectif, nous présente l'histoire du projet .pdf.
Portée de femmes, du coup, c'est un spectacle qui est né du collectif projet.pdf. C'est un collectif qui est né en 2015 autour d'une rencontre de portée acrobatique qui a eu lieu à la Grainerie à l'initiative d'une personne, d'une voltigeuse qui avait envie de voir ce que ça ferait de travailler qu'entre femmes. Aujourd'hui, le collectif, on le dit entre femmes et minorités de genre, mais c'est plus récent. À l'époque, on disait entre femmes. Et donc voilà, elles ont essayé, elles se sont retrouvées, elles ont fait des portées, elles se sont dit c'est vraiment super, on va faire un spectacle de ça. Et donc de cette première rencontre est né un spectacle, donc Portée de femmes en 2017. À la base, ça devait être vraiment un projet, un spectacle. Finalement, en 2021, il y a eu la proposition d'une nouvelle création, fin 2020 d'ailleurs, qui s'appelle Légendes urbaines. Et donc ce premier projet, finalement, ce groupe a décidé de se poser en compagnie et aujourd'hui en collectif. Et donc, il y a eu une deuxième création, Légendes urbaines, qui est sortie en 2023, qui est une création in situ pour l'espace public. Et il y a eu une troisième création qui s'appelle Le Grand Méchant Frisson, qui est un jeune public qui est sorti en janvier 2026.
En ce moment, le collectif travaille autour de Chapitel. Coraline nous en dit plus.
Chapitel, c'est un projet qui est né de l'envie de déjà aller sous chapiteau et de regarder un peu en arrière ce qu'ont été les femmes de cirque avec un regard plutôt sur la période 1850-1950 et savoir un peu quelles ont été ces femmes de cirque, quelle a été leur place dans le cirque et dans la société. Tout ça est venu d'un article qui disait que le cirque avait été un outil émancipateur pour les femmes dans ces années-là. Et donc, c'est parti de là. On a fait des recherches, on a mené pas mal d'entretiens avec des historiens, historiennes du cirque, avec des sociologues, avec des artistes. Voilà, on s'est un peu questionné là-dessus. Et parallèlement à ça, on avait aussi envie de s'intéresser aux femmes curiosités, donc ce qu'on appelle plus communément les freaks, mais donc on essaie d'enlever ce mot de notre vocabulaire. Donc ces curiosités qu'on a montrées vraiment comme des phénomènes de foire plutôt aux États-Unis dans ces mêmes années. Et donc il y a pas mal de femmes qui ont été montrées là-dedans, donc la grosse femme, la femme à barbe. Et donc un peu, donc on a fait des recherches là-dessus pour s'inspirer et se poser la question de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est nous en tant que femmes de cirque? Est-ce qu'on est émancipé? Est-ce qu'on est des monstres? Est-ce qu'on... Alors non, pas du tout, on n'est pas des monstres, mais qu'est-ce qui peut être de monstrueux aujourd'hui dans notre société? Qu'est-ce qui peut faire qu'on est à la marge ou pas? Qu'est-ce qui nous a amené à aimer ces, ces monstrations, quoi, vraiment, pourquoi ça a fonctionné, ces fêtes foraines, là, ces sideshows où on allait voir, voilà, on les appelait des monstres. Voilà, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on remue et qu'on brasse ensemble pour créer donc un spectacle sous chapiteau pour 8 acrobates, 2 musiciennes et 3 techniciennes.
Ça donne envie, hein. Le collectif projet.pdf devrait venir travailler dans les alentours dans les mois, années qui viennent. On vous tiendra informés. Elles sont aussi programmées lors du festival Les Incandescentes qu'on vous présentera en fin d'émission. Le corps dans tous ses états, ça c'est le thème de Brin de Cirque cette année. Et l'envers des corps, c'est un des sous-thèmes. Lisa Curti, Françoise Philippon et Catherine Léger, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toutes les trois mêlées à l'univers du cirque depuis très longtemps. Lisa, tu es artiste de cirque professionnel. Françoise et Catherine, vous êtes circassiennes en amateur. Et Catherine, tu as été pendant longtemps la présidente de l'ETAC, organisatrice de Brin de Cirque. Et au passage, tu es aussi la maman de Coraline qu'on a entendue plus tôt. Donc un univers que vous connaissez donc toutes très très bien. Et nous, bah, pas forcément, et qu'on a découvert en préparant cette émission, n'est-ce pas Natacha ?
Oui, et ce qui est assez marquant, c'est que c'est un domaine de recherche, mais on l'a entendu aussi avec Coraline Léger et son projet Chapitel, un domaine de recherche qui semble assez foisonnant. Il y a pas mal d'études, pas mal d'enquêtes, pas mal de travaux de recherche avec des chercheurs en sciences sociales sur le cirque, et plus particulièrement à partir des années 2000 sur les rapports hommes-femmes dans le cirque, les assignations de genre, la place des femmes dans le cirque contemporain, les inégalités, etc. Les femmes dans le cirque, c'était d'ailleurs par exemple le thème de rencontre-débat organisée en mars 2025 au TCI, alors c'est le Théâtre de la Cité Internationale à Paris, par Pauline Guyet qui est docteure en art du spectacle. Et en introduction de cette manifestation, Pauline Guyet rappelle que, comme dans tous les autres domaines, les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire. Et pourtant, on l'a entendu avec Michel à l'instant, eh ben, elles étaient bien présentes, et ce, dès le départ. Et elle souligne aussi, Pauline Guyet, que les mutations des années 70, que Michel a également rappelé, et la tendance toujours très forte, est à l'opposition dans les discours entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain. On l'écoute à ce sujet.
Aujourd'hui, on a tendance à opposer le cirque dit classique ou traditionnel, qui repose encore sur le modèle d'une entreprise familiale patriarcale et sur le respect d'une surdifférenciation sexuelle. Donc, c'est-à-dire que les numéros de cirque traditionnel reposent sur des codes pour mettre en scène des identités féminines et masculines avec un certain nombre de valeurs ou de stéréotypes qui leur sont associés. Pour les femmes, la souplesse, la légèreté, la grâce. Pour les hommes, la force, l'adresse, la responsabilité. Donc c'est à la fois des répartitions dans des disciplines, par exemple le jonglage, la magie pour les hommes, les disciplines aériennes pour les femmes, mais aussi dans des rôles qui portent et qui rattrapent pour la voltige, les collectifs d'acrobatie, etc. Alors que donc, dans les productions contemporaines, il y aurait une volonté de repenser les codes genrés et les esthétiques des numéros traditionnels, mais aussi des corps sur scène. D'après la chercheuse donc, en cirque Magali Cizorne, on serait passé d'une hyper-ritualisation de la féminité à un certain manque de traits distinctifs entre le masculin et le féminin. Cela dit, voilà, les frontières entre cirque traditionnel et contemporain sont un peu artificielles. Enfin, dans la réalité, c'est beaucoup plus poreux que ça. Mais ce que cette chercheuse Magali Cizorne dit, c'est qu'en fait, ce divorce esthétique, il se fait sur cette question des identités de genre et de sexe. C'est l'indice de ce divorce. Justement parce que le cirque contemporain ne veut plus de cette féminité qui repose aussi sur une stricte convention entre le genre et le sexe. Donc, les femmes du cirque contemporain ont un double travail, dit-elle aussi. Elles doivent travailler au regard d'une double distinction. Il faut d'une part se distinguer des esthétiques de cirque traditionnel, et d'autre part se distinguer des normes sociales qui fixent la place et l'image des femmes.
Alors, on vient de l'entendre, Pauline Guyet souligne le fait qu'aujourd'hui, un double travail revient aux femmes du cirque contemporain, à la fois se distinguer des normes de genre et des normes du cirque traditionnel. Lisa, Françoise ou Catherine, est-ce que ça vous parle, cette distinction opérée ?
Oui, ça nous parle complètement.
Lisa,
si quelque chose à dire.
Oui, c'est évident. La distinction entre le cirque contemporain et le cirque traditionnel, elle est nette. Et ça fait quand même une paire d'années quoi, que le cirque traditionnel en fait disparaît petit à petit. S'y est ajoutée la participation des gens qui sont contre l'exploitation des animaux, qui a aussi un peu accéléré ce mouvement, quoi. Et parallèlement à ça, le cirque contemporain se développait beaucoup par sa volonté, bien sûr, de cette place des femmes, et surtout cette volonté d'apporter un message à un spectacle de cirque qui n'était jusqu'alors que des numéros techniques, en fait.
Et pourtant, c'est quand même bien présent dans vos univers ou dans vos imaginaires, la question du cirque traditionnel. Quand j'ai eu Françoise au téléphone avant l'émission, tu m'as parlé notamment des tenues des femmes dans le cirque traditionnel. C'est aussi toutes et tous les images qu'on peut avoir en tête. C'est ces images-là, celles du cirque traditionnel avec le chapiteau rouge et jaune. D'ailleurs, chapiteau de l'État qui est rouge et jaune. comment vous vous êtes construite et comment vous êtes lancée aussi en ayant ça en tête, et comment vous l'analysez, si vous le faites d'ailleurs. Lisa, peut-être ?
Moi, je pense que j'ai beaucoup évolué entre le moment où je fais du cirque depuis vraiment toute petite. Je pense qu'en étant petite, ouais, j'avais envie de porter des paillettes et d'être en juste corps sur le trapèze. C'était quelque chose qui pouvait me parler, je pense. Et puis après, en évoluant, puis en voyant un peu le regard du public, les retours, et puis moi, ce que j'avais envie de véhiculer, je pense que ça a changé pas mal. En fait, j'ai pas juste envie d'être une petite meuf sur son trapèze, quoi. Donc je pense que ça a vachement évolué. Et même si des fois, je me fais plaisir là-dedans. Des fois, ça me fait plaisir de remettre mon costume à paillettes et de faire un numéro de tissu traditionnel, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire passer comme message principal, quoi, je dirais.
Françoise ou Catherine, par rapport à ça, cet imaginaire du cirque traditionnel, est-ce que ça vous parle ?
Alors moi, je fais une différence entre l'imaginaire tel que tu le décris et puis la couleur du chapiteau, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Le truc traditionnel, effectivement, c'est plus à l'intérieur. Et oui, mais je pense que ça s'est fait progressivement, tu vois, parallèlement, en fait, à la prise de conscience de beaucoup plus de femmes, que le corps de la femme devait... devait servir à autre chose qu'à être jolie, par rapport à l'acceptation des corps des femmes un peu différents. Je pense que ça a été une évolution sociétale, en fait, dans laquelle le cirque s'est très bien positionné. Enfin, il y a trouvé sa place.
Mais est-ce que, vous avez vu ce moment de bascule, peut-être vous toutes les deux, parce que vous êtes au sein de l'ETAC depuis un petit moment. Est-ce que vous avez senti ce moment où ça a basculé, où on a commencé à s'interroger sur le corps des femmes, voilà.
Bah, les taxes, c'est un peu particulier parce que c'est du cirque amateur. Je ne sais pas si, oui, comme dit Lisa, les enfants, elles arrivent, une petite fille, elle a envie d'être jolie sur son trapèze ou jolie sur ses... Mais ce qui s'est passé, c'est surtout dans le cirque professionnel, où je pense que, et dans les écoles de cirque, c'est là où je pense qu'il y a eu vraiment un changement, une réflexion. L'idée de faire passer un message dans le cirque, c'était pas gagné, je pense, à l'État qu'au départ, hein, du tout. Moi, j'ai jamais eu envie d'être juste jolie sur un agrès, d'abord parce que j'avais passé l'âge quand j'ai commencé.
Catherine, tu voulais dire quelque chose sur cette idée du message
Voilà, moi je suis d'accord avec Françoise, mais je pense néanmoins, vous dites que l'ETAC n'a pas été tant que ça. Si, je pense que l'ETAC a aussi aidé. Alors c'est vrai, je vais reprendre l'exemple de Coraline, c'est un peu facile, mais Coraline, par exemple, a été très très bien accompagnée par l'équipe de l'ETAC dans cette réflexion, alors qu'elle était adolescente et qu'elle s'est dit, non, mais j'ai plus envie d'être en costume machin, ça me plaît pas. Personne ne savait trop d'où ça sortait, mais en attendant, elle le disait. Et elle était très bien accueillie. Donc, je pense qu'effectivement, ça a vraiment été porté par tout un chacun, plus ou moins consciemment. Mmh. Je pense que c'est ça qui est important, plus ou moins consciemment. Oui, la prise de conscience, elle est certainement venue après.
C'est en lien aussi avec des évolutions sociétales. Et puis, il y a eu aussi un MeToo du cirque hein, qui a révélé des choses. D'ailleurs, Coraline nous en a parlé au téléphone. Elle m'a expliqué avoir été assez touchée par la vague MeToo du cirque. Elle imaginait bien qu'il pouvait y avoir des dérives aussi dans son milieu, mais pas autant. Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là ? Lisa, est-ce que toi, tu l'as vécu ? Comment tu as réagi ?
Je pense que c'était un petit peu après. Enfin, moi, je suis sortie d'école un peu plus juste avant cette vague-là. Donc, je l'ai plutôt entendue par des copains et des copines qui étaient encore dans les écoles. Mais je suis aussi sortie des écoles à cause de tout ça. Pas en étant agressée, moi, personnellement, dans une histoire très, très horrible. Mais je n'ai pas été forcément à l'aise sur mon parcours d'avoir eu que des profs masculins, quasi. Et du coup, on est quand même dans des... Enfin, moi, je faisais de l'aérien. Enfin, en tout cas, j'ai jamais été jongleuse. Donc, on est tout le temps en train de se toucher pour se rattraper, pour sauver la vie, en fait, de la personne. Donc, c'est super OK. Mais du coup, il y a aussi une banalité du toucher qui fait que si on n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, bah, faut quand même y passer, quoi. Et du coup, moi, ça m'étonne pas du tout. Elle m'a pas du tout étonnée, cette vague. Enfin, je me suis dit, bah, c'est évident. C'est l'endroit parfait pour pouvoir faire ce qu'on... Enfin, comme tous les sports, je pense. Hein. Enfin, je connais pas les milieux sportifs, mais tout ce qu'on entend dans la gym et dans ces milieux-là, c'est... Ouh. On est quand même sur un vivier. On parle du corps, on est avec le corps toute la journée. C'est l'endroit parfait pour... En plus, on a des profs qui nous apprennent des choses. Donc, on peut rien redire parce qu'il faut forcément être d'accord avec ce qu'ils disent parce que c'est eux qui vont nous apprendre à bien faire. C'est triste, mais ça m'a pas trop étonnée. C'est... Ouais.
Et Françoise, Catherine ?
Encore moins que Lisa, puisque mon fils était dans une école où il y a eu beaucoup de problèmes. Et lui, il est aussi circassien. Il fait de l'acrobatie à deux et sa partenaire a souffert aussi beaucoup de ça. Et c'était très difficile. C'est très difficile, c'est ce que dit Lisa. C'est que, ben, on est apprenant, on est là pour... et on a des gens qui... ont un comportement gênant,
déplacé.
Mais on ne sait pas. Et je pense que cette idée, c'est ce que ça a amené, cette histoire de MeToo du cirque. C'est vraiment une vraie réflexion, par contre, là, partout. Dans les écoles de cirque, y compris les écoles amateurs, sur le consentement. C'est vrai que c'est forcément... Enfin, quand on fait du cirque, quand on fait de la danse, quand on fait du théâtre, c'est des endroits où forcément on va avoir un contact avec l'autre. On ne peut pas faire des portées à deux sans toucher l'autre. Et puis s'il tombe, eh ben, on ne va pas réfléchir si on lui met où on met la main. Il peut arriver qu'on lui touche le sein, l'entrejambe, etc. Mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y a une réflexion là-dessus. Et il me semble que ces choses-là, ça peut aussi se régler par la parole. Il y a un de nos amateurs qui doit avoir un peu plus de 40 ans, qui rêvait de travailler en acrobatie avec une voltigeuse. Mais les voltigeuses amateurs de l'État, c'était des filles de 20 ans. Et se posaient beaucoup de questions justement sur comment s'y prendre pour ne pas avoir l'air du méchant prédateur. Voilà. Bon, il a trouvé une partenaire avec laquelle... qui a effectivement l'âge d'être sa fille, mais avec lesquelles ils ont trouvé un accord et où on voit qu'il y a une confiance totale et qu'il n'y a aucun malentendu. C'est pas parce qu'on se touche qu'on s'agresse. Alors, hier, elle parlait d'un côté excessif de ça aussi, c'est qu'à force de dire aux enfants... qu'il faut leur consentement. Elle s'est fait reprendre par un enfant parce qu'elle voulait lui tenir la main pour l'aider à faire tourner une assiette chinoise. Il dit, tu m'as pas demandé la permission.
Ils ont acquis les réflexes.
Donc ça, c'est une bonne chose qu'ils aient acquis les réflexes. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait de la parole et qu'on puisse expliquer à des jeunes ou très jeunes que quelquefois on va peut-être les toucher, mais c'est par nécessité.
Ouais, ce MeToo là, ça a quand même fait avancer des choses, mais peut-être pas tant que ça et pas partout.
Oui, alors tout à l'heure Michel évoquait que sous l'impulsion du ministère de la Culture, un plan massif de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels avait été déployé pour la période 2025-2027. Donc on peut imaginer que récemment les choses ont pas mal changé. En revanche, Pauline Guyer, qu'on entendait tout à l'heure lors de la conférence sur la place des femmes dans le cirque, soulignait dans son introduction les décalages persistants entre les pratiques et les discours. En effet, malgré les revendications d'égalité et de remise en cause des normes de genre, l'état des lieux dans le cirque contemporain n'est sans doute pas aussi égalitaire que cela. Donc ça avance, mais ça avance lentement comme dans tous les domaines. Et notamment, elle soulignait que si l'on regarde ce qui se passe dans les écoles de cirque, dans les pratiques d'enseignement et du côté de la répartition par discipline et par rôle, il y avait encore du chemin à faire.
Donc, les lieux de formation, les écoles ont été l'objet de plusieurs enquêtes et réflexions de chercheuses, sociologues, spécialistes des pratiques corporelles. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on manque de chiffres, notamment pour, ne serait-ce que poser l'hypothèse d'une féminisation des écoles et une féminisation des pistes et des plateaux. Les données et les enquêtes ont au moins 10 ans, si ce n'est plus. Donc, il faudrait réenquêter pour réactualiser ce qu'on sait de ces pratiques, ces formations, ces sociabilités, ces constructions de carrière. Néanmoins, on sait que dans les années 2000 et 2010, on faisait déjà le constat d'une persistance des inégalités de genre dans les écoles de cirque, malgré une remise en cause déclarée des polarités sexuelles dans les discours des professionnels et dans les spectacles. Les chiffres des années 2000 et 2010 montrent quand même des prédominances masculines dans les écoles, notamment dans les écoles nationales supérieures. Après, j'ai regardé par exemple les trois dernières promotions du CNAC, on est à la parité. Donc je pense que les choses ont quand même énormément changé en 10 ans en fait, entre les dates, ces dernières données et là où on en est aujourd'hui dans les années 2020. Néanmoins, ce qui ressort et ce qui est intéressant de ces enquêtes dans les années 2000, jusqu'au mi-temps des années 2010, c'est que l'apprentissage du risque et de la douleur sont genrés. Ça repose sur des socialisations en fait préalables en tant que femme. Et ces enseignements et ces présupposés, ça conditionne évidemment les rôles et les pratiques circassiennes et les trajectoires professionnelles, même s'il y a quand même une plus grande indifférenciation aujourd'hui. Donc, les rôles féminins continuent de persister dans un petit nombre de domaines, comme l'acrobatie, la contorsion, les équilibres, qui apparaissent comme des spécialités dites féminines. On a encore peu de magiciennes ou peu de jongleuses, par exemple. On observe aussi une nette ségrégation dans les pratiques aériennes. Les femmes sont peu nombreuses dans les disciplines de voltige et concentrées dans les agrédits de suspension, dont l'archétype est le trapèze fixe. Néanmoins, donc, la chercheuse Marion Guyez, dans un article sur la distribution dans les scènes circassiennes en 2015, ajoute que cet attachement fluctue et qu'il y a des effets de mode. Par exemple, la pratique du mât chinois, qui était très masculine, a été largement féminisée dans les années 2000. Et à l'inverse, la pratique de la cordelisse, qui était plutôt une pratique dite féminine, a été largement réinvestie par les hommes, qui s'emparent aussi du hula hoop ou d'autres disciplines. Mais elle relie ça à aussi l'exigence d'originalité nécessaire pour réussir dans le milieu et pour satisfaire son exigence de rareté. Voilà.
Alors, si on revient sur la pratique du cirque dans les écoles, on a commencé à en parler avec toi, Lisa. J'ai aussi interrogé Coraline à ce propos. Elle nous a expliqué ce qu'elle a vécu, elle, lorsqu'elle était en école de cirque.
C'est pas du tout des choses qui étaient discutées. En revanche, c'est des choses qui existaient de fait, notamment à travers l'esthétique. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal vu sur d'autres personnes ou vécu pour ma part, ayant un corps qui plus tard s'est destiné à porter. C'est du coup un corps quand même assez fort et pas forcément dans les critères de beauté attendus par la société, c'est-à-dire un corps plutôt mince. Et du coup, ça a pas mal été discuté. J'ai vu autour de moi, à la fois pour des porteuses, mais aussi beaucoup chez les voltigeuses, donc qui sont censées être justement très minces et très légères, beaucoup de surveillance, par exemple, des repas, les coachs qui se permettent de dire aux voltigeuses de ne pas prendre de dessert, de dire à plusieurs femmes, quoi. D'ailleurs, même un peu au-delà de toutes les disciplines, je l'ai vu aussi dans l'aérien, un peu la gestion du corps de la femme, quoi, d'avoir un regard dessus et de ne pas se déranger pour le dire haut et fort devant tout le monde qu'il fallait que ce corps-là soit plus mince ou plus léger. J'ai raconté ça apparaît dans le livre de la Maison du Cirque. Moi, j'ai mis un moment à réussir à me faire appeler porteuse parce que justement, c'était plutôt une discipline de porteur. Et non, les questions ne... Enfin, de porteur, pardon, une discipline masculine, donc on m'appelait un porteur. Non, les questions ne se posaient pas du tout autour de ça. Hommes et femmes, moi, j'ai pas du tout vécu ça. Et quand j'ai... enfin voilà, quand il y a eu Balance ton cirque et tout ça, moi j'ai revécu des choses dans ma tête en y repensant et en me disant ben oui, en fait, effectivement, comme partout, il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas OK, mais qu'on conscientise tous petit à petit, en fait, qui viennent ouais, petit à petit dans notre apprentissage et dans notre déconstruction qui se fait pas à pas.
Oui, alors moi, en écoutant Coraline, j'étais là, ah oui, mais j'imaginais pas du tout que dans une école de cirque, on pouvait contrôler les repas des élèves. Hein. On imagine ça dans le domaine de la gym, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou d'autres disciplines sportives. C'est vrai que quand on est spectateur ou spectatrice de ces spectacles de cirque, on voit le côté plutôt du message artistique, mais on voit pas la partie sportive derrière et la pression qu'il pourrait y avoir. Ça, c'est aussi quelque chose que toi, tu as pu vivre, Lisa ?
Moi, personnellement, pas tant dans le sens où j'étais porteuse aussi. Donc je pense que, en tout cas, moi, je me fichais un peu la paix avec mon corps. Je me disais, bah, de toute façon, je peux manger, moi, c'est OK. mais je poserais bien la question aux voltigeuses avec qui j'ai travaillé, que j'ai plus en contact aujourd'hui. Mais oui, c'est sûr qu'elles, elles ont vécu plus de surveillance que moi. Bon, on me laissait un peu tranquille. On était contents que je vienne faire ma préparation physique le matin à 8h avant de commencer les cours à 9h. Ça, c'était cool. Hein. Lisa, elle est toujours là en train de se muscler. Ça, c'est cool. Moi, j'ai beaucoup vécu plutôt de la...
Donc, t'avais cette pression-là aussi.
Sur les muscles.
Ouais.
Ouais, sur le fait que, vu que je suis une fille, bah, faut rattraper comme un peu le retard musculaire qu'un homme pourrait avoir s'il était porteur. Donc, du coup... Moi, toute seule, je me suis mis une pression de folie sur...
Et est-ce que par rapport aux garçons qui étaient dans cette école, il y avait discussion aussi par rapport à eux, leur corps ? Parce que finalement, eux aussi ont des injonctions d'être forcément costauds, avec des gros biceps et de porter les nanas. Et si t'as un corps mince et que t'es un mec et que t'es tout maigrichon, comment
ouais.
tu fais ?
Là, pour le coup, moi, je parle de ça, je suis sortie d'école, j'avais 19 ans. Hein. Donc, en fait, j'ai fait un an et demi dans une école et après, je suis partie, ça m'allait pas. Donc, j'étais pas... J'ai pas assez parlé, moi, avec mes collègues de promo.
Françoise, toi qui as un fils...
Moi, je peux parler de ça parce que, justement, mon fils Antoine est porteur et n'a pas le gabarit type du porteur. Et sa voltigeuse est un gabarit de voltigeuse. Mais eux, ils ont été vraiment soumis à des injonctions terribles quand ils ont été en école de cirque supérieure. Parce que, et nous, les parents, on était désemparés parce qu'ils ont été sélectionnés, je crois, 14 sur je ne sais combien, plus de 100 candidats, enfin voilà. Donc on les a sélectionnés, c'est que ça va. Dès qu'ils ont été en école, on leur a dit qu'ils n'avaient pas assez de différence de poids, pas assez de différence de taille. Il fallait que lui, il se muscle et qu'il prenne des compléments...
Alimentaire,
des choses. Et il a eu la chance qu'à Rennes, il y avait un médecin qui a été très catégorique et qui lui a dit l'inverse, qui lui a dit ce qu'il faut, c'est que t'aies des muscles utiles, pas que tu prennes des stéroïdes et que tu bousilles ta santé. Il faut que tu manges correctement, mais pas que tu avales des protéines, voilà. Et heureusement, il a écouté plus le médecin que les... voilà. Et sa voltigeuse, qui est vraiment très fine, il fallait qu'elle soit encore plus mince. Et elle continue, à l'heure actuelle, ils sont professionnels tous les deux, elle continue à être très marquée par ça et à se trouver toujours trop grosse, alors que... voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment très dommageable. Et effectivement, vive le médecin de Rony. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est du sport de haut niveau d'être professionnel de cirque. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais en même temps, c'est aussi faire chacun... L'avantage du cirque, et aussi pour nous, du cirque amateur, c'est de faire avec ce qu'on est, comme on est.
Et du côté amateur, justement, comment ça se passe, Catherine, au niveau de...
Du côté amateur, t'as vu quel âge on a, hein.
Tout le monde. Oui, mais vous avez commencé plus tôt.
Oui, c'est ça. Moi, après, j'ai eu un long moment d'arrêt. Hein. J'ai recommencé cette année, attention. Hein. Donc, non, on peut... Du côté amateur, franchement, chacun se pose ses exigences, bien sûr. Une voltigeuse amateur peut faire attention à ne pas grossir pour qu'elle puisse être portée par la personne qu'il porte, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas d'injonction officielle, on va dire. Non,
heureusement. Sur la question de la répartition aussi des choix que peuvent faire les élèves là, quand ils arrivent à l'ETAC, là, on l'entend dans le son de la docteure en art du spectacle. Tu l'as dit tout à l'heure, Françoise, les petites filles, quand elles arrivent, elles ont quand même encore cet imaginaire, même en 2026, du costume à paillettes et de « je vais voler dans les airs ». Est-ce que vous observez quand même un peu des changements ? Est-ce qu'on a des petites filles qui arrivent pour porter d'autres petites filles, d'autres petits garçons ? Est-ce que ça, vous le voyez apparaître ?
Ça, moi, je ne sais pas dire, je ne sais pas répondre à ça.
Ouais, j'allais répondre. J'habite à Besançon maintenant, je suis très rarement à l'ETAC. Je dirais que quand même, on n'est plus... Je pense que... J'imagine, mais c'est du coup de la supposition, que les filles arrivent quand même encore pour faire de l'aérien, du trapèze tissu, mais plus forcément en costume à paillettes. Je dirais qu'il y a un peu cette différence-là, qu'on n'a plus envie d'être... une petite poupée jolie, bien maquillée, bien coiffée.
Ouais, pardon, moi je suis d'accord avec ça et je pense qu'en plus les animateurs de l'ETAC ont aussi évolué par rapport à ça et ne sont plus du tout porteurs de ce message. C'est donc ça. En fait, les petites filles, elles se retrouvent vite dans un bain différent qui leur permet d'évoluer aussi.
Mais j'ai l'impression que les disciplines restent quand même un peu genrées, quoi. Ouais, il y a des filles qui font du monocycle et qui jonglent, mais statistiquement, ça fait longtemps que j'ai pas mis le pied à la maison du cirque, mais si je rentre dans un cours d'ado, à mon avis, c'est quand même encore... Ouais. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu un ado faire de l'aérien, par exemple, à l'ETAC.
Ouais. Mais vous l'avez dit, de toute façon, ça passera aussi par l'évolution des accompagnants, des accompagnantes, de la société, du regard qu'on porte là-dessus. Pour revenir à la pratique du cirque professionnel, la docteure en art du spectacle explique aussi des choses autour des carrières des femmes dans le cirque.
Oui, effectivement, elle souligne comment ces répartitions genrées et inégales par discipline, par rôle, peuvent avoir des conséquences sur les carrières des femmes.
Donc, ces répartitions par discipline, par rôle, ces apprentissages du risque, de la douleur qui sont genrés, ça a évidemment des conséquences sur la carrière et la structuration du travail, ne serait-ce que parce que les femmes sont orientées vers des disciplines et des pratiques solo, enfin individuelles, qui donc exclut consciemment ou non des logiques de réseau et de cooptation masculine, et donc elles subissent une plus forte individualisation de leur trajectoire, là où les hommes s'assemblent en collectif et sont ensuite programmés en collectif, et en fait le marché du cirque en est plus friand. Par ailleurs, les disciplines aériennes et acrobatiques dans lesquelles sont beaucoup les femmes sont des disciplines qui ne peuvent pas être pratiquées et installées en tout endroit, donc ça complique aussi les lieux de diffusion, de répétition, de programmation. Par ailleurs, donc, l'enquête de Marie-Carmen Garcia a aussi montré qu'en compagnie, elles sont davantage cantonnées à des positions d'interprètes. Elles ont peu accès aux responsabilités liées à la gestion de projet et aux prises de décision. Et que partout, on retrouve aussi des inégalités en termes de classe sociale. Plus les femmes sont diplômées, plus elles vont avoir tendance à créer leur compagnie. Et moins elles ont de diplômes, et plus elles vont en fait travailler dans des compagnies dirigées par des hommes. L'effet, c'est que ça limite fortement les possibilités d'exercice des femmes. Et moi, j'avais aussi envie d'ajouter que si jamais les femmes sont effectivement en fait dans des disciplines extrêmement physiques, on pourrait aussi se poser la question de la longévité artistique. Probablement qu'une trapéziste a une carrière risque d'avoir une carrière moins longue qu'un jongleur ou un magicien, parce que ça ne requiert pas les mêmes compétences physiques. Et que ça pose aussi la question de comment vieillir dans ce milieu qui est aussi extrêmement agiste.
Donc on a entendu Pauline Guyet, docteur en art du spectacle.
Catherine.
Oui, Catherine, pardon. Catherine, tu semblais en désaccord avec ce qu'elle disait sur les limites à l'exercice des femmes, peut-être
Je ne me permets pas d'être en désaccord, mais il me semble que ces dernières années, les femmes... prennent vraiment de la place, autant en poste de responsabilité, en tant qu'artiste engagée, en tant que... Alors c'est sûr, l'exemple de Coraline avec cette compagnie portée de femmes, mais c'est pas unique, quoi. Je pense que... Tu vois, par exemple, les hommes se mettent pas ensemble pour faire ce collectif que font les femmes, donc il se passe quand même des choses. Et je serais un peu plus confiante qu'elle ne paraît l'être, tu vois, quand elle dit... Je trouve ça un petit peu statique, sa démonstration, et je pense que les choses évoluent plus qu'elle ne nous le dit là.
Elisa, est-ce que tu veux réagir à cette question sur les effets des carrières des femmes ?
Moi, je comprends les deux points de vue. Je suis assez d'accord avec toi, Catherine. Je pense que ça évolue ces dernières années. Mais je serais curieuse de voir ces statistiques, en fait. Je pense que Catherine, tu as vachement ce point de vue-là parce que Coraline, qui est ta fille, fait tout ça. Et du coup, peut-être que c'est un peu biaisé par la réalité plus grand, plus large. Voilà, du coup, je pense que ça fait vachement écho, ce qu'elle dit, en tout cas.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que pour que les femmes puissent avoir une place, il faut qu'elles s'organisent entre femmes et minorités de genre. C'est-à-dire que si elles sont dans une compagnie mixte, elles ont moins possibilité de gravir les échelons, peut-être.
Alors ça, c'est pareil, ça peut être d'un point de vue général. Et on peut aussi constater dans certaines compagnies un fonctionnement plus égalitaire, on va dire. Donc, voilà. Moi, je pense que tout est un petit peu à modérer, à mesurer. Il y a une évolution qui existe, il y a encore des choses à revoir, on en a parlé, tout ça. Et je pense qu'il faut rester bien attentif à ce qui se passe, mais vraiment, les choses évoluent, quoi. Et les hommes évoluent aussi, dans ce sens-là.
Ça sera l'objet de l'émission du mois de juin, justement. On se questionnera sur ces hommes-là. On parlera aussi de ceux qui font du cirque. Et on l'a entendu aussi dans ce que dit la chercheuse, c'est la question du corps comme outil de travail et du corps qui peut aussi vieillir, bouger, être modifié. C'est pas forcément hyper facile à gérer, ce corps.
Oui, et donc du coup, moi, quand on a commencé à parler de cette émission, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce corps et qu'est-ce que, alors, scientifiquement, c'est quoi les muscles, quoi. Donc, j'ai été voir Juliette Morel, qui est kinésie et qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est donc spécialiste du mouvement et du fonctionnement des muscles et qui nous explique qu'est-ce que c'est que le muscle et puis comment ça fonctionne.
Alors, le muscle, c'est quand même le tissu qui permet la contraction et donc le mouvement, mais qui permet aussi la posture, le fait de tenir droit, tenir debout, etc. Et le muscle, pour faire assez simple, c'est constitué de fibres musculaires, qui sont de deux sortes, et ça a de l'importance, qui sont des fibres musculaires avec des contractions qui sont rapides ou des fibres musculaires qui sont plutôt à contraction lente, qui vont pas avoir la même fonction ou qui vont pas réagir de la même façon au cours de l'effort, en tout cas. Et ces fibres musculaires, elles vont intérieurement fonctionner dans leurs cellules avec des myofibrines, pour rentrer dans les détails. Et ces myofibrines, en fait, elles sont constituées de protéines, des protéines qui vont s'assembler l'une à l'autre. Et pour qu'elles puissent fonctionner correctement, ces protéines, elles vont avoir besoin de différents éléments qui vont être de l'énergie pour fonctionner et pour s'assembler. Elles vont avoir besoin de calcium. On aura besoin de bonnes conditions, finalement, pour avoir un muscle en bonne condition physique qui nous permet de continuer de travailler correctement ou de supporter des efforts avec une certaine intensité ou des efforts un petit peu longs dans le temps. Je pense qu'effectivement, dans les arts du cirque, ça met en jeu l'ensemble de nos muscles, en fonction certainement de la spécialité de chacun. Ce qui est commun, je pense, à tous les artistes, c'est le travail en équilibre. Donc là, ça va faire appel à des muscles profonds, plutôt les muscles de la posture, donc essentiellement les abdominaux et les muscles lombaires dorsaux, qui ont un rôle pour stabiliser le corps, qui va leur permettre de contrôler toutes les figures qu'ils font en périphérie. Et puis, ces muscles du centre, ils nous permettent aussi de transmettre la force. Donc, si on a quelqu'un qui va travailler sur son trapèze en équilibre avec les jambes, il a malgré tout besoin d'un centre très tonique pour pouvoir être libre avec ses jambes ou avec ses bras d'évoluer correctement. Donc, on peut pas dire qu'il y ait des muscles plus importants, je pense, dans ces activités-là, mais malgré tout, et c'est un peu valable chez tout le monde, si on a des muscles de la posture, des muscles profonds qui sont bien entretenus, derrière, on est plutôt en bonne forme.
Bon, on enchaîne l'émission avec une séance d'abdos, les filles. Hein. Alors, apprivoiser son corps, c'est pas facile. Hein. D'ailleurs, comment on fait quand c'est un outil de travail et en plus, il faut le montrer aux autres, qu'il soit joli, agréable, peut-être, à regarder pour qu'on ait envie de voir notre spectacle. J'en ai discuté avec Coraline Léger.
Eh ben, ça a été compliqué. Ça a été un parcours semé d'embûches, de beaucoup de personnes par moments malveillantes. J'ai souvenir, par exemple, d'un ostéopathe qui m'avait dit que je ne deviendrais pas artiste parce que j'étais trop grosse et qu'il fallait que je perde du poids parce que j'étais pas assez athlétique, ou ce genre de réflexion qui marque, en fait, quand on ça à 14 ans, avec un seul rêve en tête, devenir artiste de cirque, c'est des choses qui marquent très fort et qui sont difficiles à faire bouger. Et, ouais, ça a été des hauts, des bas, ça a été différentes batailles. Après, je pense que c'est ce qui m'a forgé aussi, c'est ce qui me fait grandir. Et je pense que malheureusement, en fait, les troubles liés au poids et au paraître du corps, pardon, je trouve pas les mots, je crois qu'ils concernent une très grande partie des femmes et notamment des jeunes femmes de notre société. Donc, je n'y ai pas échappé. Et malheureusement, dans le cirque, effectivement, on peut avoir une image peut-être un peu plus cool qu'à la gym. Mais en fait, on passe notre vie à travailler notre corps. C'est notre outil de travail principal. Et il est là pour qu'on le montre. En fait, il va être sur scène. Et en fait, on a un rapport au corps qui est à plein d'endroits très beaux, mais qui est aussi à d'autres endroits assez... J'ai pas envie de dire problématique, mais en tout cas, on se surveille, on se regarde beaucoup. Je trouve qu'il y a ça aussi quand même dans le cirque. Après, le cirque, c'est très large, hein, c'est une très grande famille. Donc moi, je parle de mon point de vue, de mon passage dans certaines écoles. Voilà, peut-être que d'autres personnes auraient un autre discours. En tout cas, moi, dans le cirque contemporain que je pratique et dans les écoles que j'ai traversées, oui, je trouve qu'on avait un regard sur le corps assez exigeant.
Justement, alors comment ça se travaille ce regard sur notre corps, enfin, est-ce que ça se travaille d'ailleurs? Est-ce que ça, on l'évoque peut-être déjà en tant qu'amateur à l'ETAC? Est-ce que vous en parlez de ça? Et puis après, quand on est professionnel, comment on bosse là-dessus? Je ne sais pas qui veut répondre en premier.
En tant qu'amateur,
les élèves de l'ETAC?
Ouais, en tant qu'amateur, il n'y a pas... C'est pas un sujet, quoi. C'est un sujet, effectivement, on a envie d'avoir la pêche pour faire ce qu'on veut. Mais
il y a quand même une représentation dans le cadre du festival. Vous vous mettez quand même en scène.
Donc là, moi,
je me pose la question là, de comment on anticipe ça.
C'est pas... Moi, j'ai fait du cirque, entre autres. Ben, moi, je suis à l'aise avec mon corps. Donc, au contraire, je le remercie tous les jours d'être... Mais c'est ce que dit Catherine. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'aspect de mon corps. C'est ce que je peux faire avec. Et du moment que les muscles répondent, que je peux toujours, à 72 ans, courir, sauter, faire une roulade, je suis ravie. Donc, je pense pas à... Enfin, sincèrement, quand on fait bien sûr une représentation à Brin de Cirque, je suis pas obsédée par, mon poids ou mon absence de sein ou je ne sais quoi. Par contre, je pense que oui, ça peut, pour d'autres, ça peut être un souci. Je pense qu'en amateur, en fait, on est plutôt là pour, heureusement, enfin, en tout cas, à l'ETAC. On est là dans le plaisir, dans l'envie de faire. J'espère qu'on n'est pas trop obsédé par...
Non, puis quand je vois les jeunes, on est vraiment... Enfin, elles paraissent... Ils et elles paraissent aussi là vraiment pour partager, comme tu dis, pour se faire plaisir, pour réussir des choses, hein, bien sûr. Il y a de l'exigence, ça, c'est sûr. Mais sans se faire du mal, quoi, hein, vraiment. Moi, je vois ça comme ça, quoi.
Et du côté professionnel, Lisa, comment toi, tu as appris à apprivoiser ton corps?
C'est une question difficile. Je pense que je pourrais redire à peu près tout ce que Coraline elle a dit. Je me retrouve vachement dans ce qu'elle raconte. Ayant commencé le cirque, encore une fois, toute petite, je pense qu'au début, je ne me posais pas trop les questions. Et puis, je me suis heurtée aussi. Il y a des adultes qui m'ont dit que j'étais trop grosse pour faire du cirque. Très tôt. Donc, ouais, un peu le même parcours. En amateur, je pense que ça m'avait pas trop touchée. J'étais juste contente de réussir à faire des figures sur mes agrès. Et je pense qu'après, ça a un peu évolué quand j'ai commencé à faire des équilibres sur les mains. Où là, j'ai eu un peu plus une surveillance de mon corps parce que c'était pas ma discipline de base. C'est pas là-dedans que j'avais grandi. Du coup, j'ai appris tout ça et j'ai eu un regard sur mon corps extrêmement dur que j'ai encore aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas si je l'ai vraiment apprivoisé.
Et puis, il y a la question aussi des changements des corps des femmes. Nos corps, ils évoluent. Enfin, voilà, entre ce que tu dis, l'adolescence, et puis maintenant, Coraline, elle est maman. Toi aussi, je crois. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment-là de la grossesse et puis de l'après, peut-être ?
Ben, je dirais que la grossesse en elle-même, ça s'est pas trop mal passé. Et je pense que même, c'était la première fois en 28 ans que je lâchais les chevaux sur le corps. En mode, allez, là j'ai faim, je mange ça, je mange ci, je m'en fous. Ce qui du coup a eu des conséquences par la suite. Et du coup, ben, l'après, on est dedans. Hein, et je suis pas bien du tout dans mon corps aujourd'hui. Quoi. J'ai pris cher. Et du coup, je sais pas trop comment faire. Bon, c'est une autre construction, je vais pas m'étendre là-dessus, mais... Ça, c'est vraiment pas facile, quoi.
Moi, c'est aussi ce que nous a partagé Coraline, hein, l'envie d'aller au bout de sa grossesse en continuant la pratique, mais en fait, elle s'arrête au bout de 2 mois à peu près de grossesse, ou 2 ou 3 mois, enfin très tôt, alors qu'elle imaginait continuer avec son gros ventre à faire des choses. Et puis l'après aussi, où on est attendu pour des dates et on a la pression de devoir se remettre au sport, etc. Donc ça, on a bien entendu que c'était difficile, et ça, c'est quand même quelque chose que les hommes ne portent pas. Ça, on peut aussi se le dire. Et puis, elle m'a parlé aussi de quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Elle m'a parlé aussi de la répartition des tâches une fois que tu deviens maman. Et on l'a aussi entendu dans l'historique de Michel, mais aussi dans ce que dit la chercheuse. Souvent, le cirque, c'est en famille. Et elle m'explique, Coraline, que souvent, les mamans cirque qui ont 2 enfants... arrêtent leur carrière parce qu'elles se retrouvent à devoir gérer les enfants. Et puis, il y a la question aussi du corps qui vieillit. On a commencé à l'aborder. Je crois que tu en as parlé avec la kiné.
Oui, en fait, c'était la première chose que j'avais envie de lui demander. L'âge avançant, on aperçoit ce qu'on appelle la fonte des muscles. Alors bon, qu'est-ce que c'est ? Réponse de Juliette Morel, kiné.
La fonte des muscles, c'est vraiment décrit depuis les années 90, ça s'appelle la sarcopénie. C'est effectivement une diminution de la masse musculaire qu'on observe principalement chez les femmes à cause de la ménopause et donc de la baisse des œstrogènes dans le corps, qui ont une action sur le travail de la fibre musculaire. Mais aussi sur l'énergie qui peut être utilisée par le muscle, etc. En fait, cette baisse d'œstrogène, elle joue un rôle clé dans la diminution de la récupération des muscles et aussi dans la répartition des graisses dans l'organisme. À l'effort musculaire, l'énergie, elle est produite soit par le glucose qu'on a, le sucre qu'on a dans le corps, soit par l'utilisation des stocks de graisse. Si on fait un effort plus long, on va plutôt utiliser les graisses. Mais cette baisse d'œstrogène, elle va stocker des graisses à certains endroits et ralentir aussi le travail musculaire. Mais si on contrecarre tout ça par un travail régulier, ben finalement, on réenclenche le processus et on favorise l'entretien de la contractilité de ces fibres.
Alors moi, j'ai jamais fait de cirque. J'ai jamais été à l'ETAC, hein, qui est l'école de cirque de Bourg. Oui, c'est pas bien. Et donc, du coup, je lui ai demandé, mais est-ce que je peux commencer maintenant que j'ai plus de 70 ans?
Alors, sur le trapèze, peut-être pas, mais... Tout est possible. En fait, on sait que le travail musculaire régulier et même chez quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui commencerait une activité physique, parce qu'on peut ne pas faire de sport, mais faire une activité physique régulière, on sait que ça contrecarre cette fonte musculaire, que ça améliore la posture. Donc, on peut déjà commencer par un travail musculaire doux, de renforcement doux, et petit à petit amener à un meilleur travail d'équilibre aussi. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cirque. C'est des gens qui ont en général un très bon tonus pour tout ce qui est maintien. Nous, on appelle ça le centre. Et quand on a un bon centre, un corps en fait qui est suffisamment tonique, après, on va pouvoir, avec les bras ou avec les jambes, être beaucoup plus libre dans les mouvements.
Eh ben, c'est plutôt réconfortant, je vais essayer. Hein. Donc du coup, alors, donc, circassienne jusqu'à 120 ans. Merci Juliette Morel.
Françoise et Catherine, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous avez vu aussi des évolutions? Est-ce qu'il y a des seniors, beaucoup de seniors à l'ETAC et ou des personnes qui commencent un peu plus tard que ce qu'on imaginerait?
Allez, à toi. Je vous dirai après.
Françoise.
Beaucoup de seniors, peut-être pas.
Nous deux.
Non, il y a aussi Bernard. Hein. Non, il y a des jongleurs. Il y a des jongleurs aussi. En senior. Alors, après.
Si, il y a quand même Jean-Pierre, 60 ans aussi, il y a quand même quelques...
Jean-Pierre, 60 ans. C'est des gens, enfin, ceux qui sont là, c'est des gens qui ont commencé quand même il y a quelques temps. Moi, je suis très contente d'entendre ce que dit la spécialiste, là, puisque j'ai commencé le cirque à 48 ans. Donc, à peu près à l'âge de la ménopause. Et que, bah, effectivement, ce qu'elle dit semble se confirmer. Et moi, je me souviens que le premier numéro que j'ai fait à Brin Cirque, c'était parce que je me sentais pas particulièrement brillante, mais je voulais montrer qu'on pouvait faire encore des choses à mon âge, et que donc les petites jeunes femmes qui venaient d'avoir deux enfants, justement, qui disaient « Oh là là, mais maintenant j'ai plus d'abdos », elles pouvaient s'y mettre. Et ce que je vois, c'est par contre, quand même, oui, pas mal de gens qui commencent plus tard, qui commencent à 40 ans, la quarantaine. La quarantaine. Donc, senior, pas encore, à 40 ans, on est encore très jeune. Mais oui, effectivement, des amateurs qui se lancent beaucoup plus tard. Moi, quand je suis arrivée à l'école de cirque, c'est parce que mes enfants y étaient. Et j'ai demandé s'il y avait un groupe adulte, on m'a dit oui, oui. La plus vieille du groupe adulte, elle avait 17 ans.
Bon, ben voilà, chers auditeurs et auditrices, hein, c'est jamais trop tard. Et puis, c'est aussi le moment d'aller découvrir la programmation de Brin de Cirque. Ça commence le 20 mai avec l'inauguration, où on vous verra peut-être les premières représentations donc, des élèves de l'ETAC. Et puis, ça continue les vendredis 22, samedi 23, dimanche 24, lundi 25 mai. En fait, tout est en ligne sur le site etac01.com. Et puis, comme on l'a évoqué dans cette émission, un regard particulier sera porté tout au long du festival sur les corps, avec une programmation spéciale et autour du corps féminin.
Oui, et l'association L'ETAC a invité une autre association, l'association lyonnaise Égaligone, qui viendra animer des ateliers participatifs le lundi 25 après-midi. Violaine Dutrot de l'association Égaligone nous raconte ce qui est prévu pour ces ateliers.
L'idée est de développer à la fois un échange et un partage d'expériences et de réflexions sur trois thématiques. Donc, il y a un thème sur le consentement, un thème sur la représentation des corps des femmes dans la pratique du cirque et un autre thème sur être circassienne ou vivre sa pratique autour du cirque en tant que mère, c'est-à-dire ce que fait la maternité en tant que transformation des corps, qu'est-ce qui se passe en fait pour les femmes qui viennent d'être mères et qui sont ensuite mères dans la pratique du cirque. Donc ce sont trois thèmes qui sont des thèmes qui font appel à une sensibilité aux questions de genre, évidemment. L'idée, c'était que ce soit des femmes qui animent, mais les ateliers sont ouverts à tout le monde. Donc, c'est vraiment n'importe quelle personne intéressée, qui pratique le cirque ou non, va pouvoir venir. Ce qu'on a mis au point pour l'instant avec trois collègues, du coup, en comptant Marie, c'est qu'il y aura un temps de speed dating, en tout cas de rencontre préalable dans l'atelier version grand groupe, et ensuite on se séparera en trois groupes, et il y aura un temps de rassemblement après pour échanger sur ce qui s'est dit dans les groupes.
Donc des échanges et des réflexions intéressantes en perspective sur donc le consentement, la représentation du corps féminin et maternité et pratique circassienne. C'est, je répète, le lundi 25 mai à partir de 14h dans le cadre du festival Brin de Cirque.
Et puis, on a pris connaissance d'un autre festival de cirque qui s'appelle Les Incandescentes.
Oui, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Le festival a été créé en 2024 par Camille Châtelain et Laura Terrancle, si je ne me trompe pas. C'est le premier festival dédié au cirque féministe. Il met en avant des créations artistiques qui défendent la diversité et l'égalité portées par des femmes, des personnes non binaires et trans. Le festival a lieu tous les deux ans, c'est donc la deuxième édition, c'est donc une biennale. Et cette année, j'ai compté 8 compagnies invitées, dont le projet PDF. Tu l'as dit tout à l'heure, Élodie, que Coraline Léger nous a présenté en début d'émission. On pourra assister à un atelier intitulé « Où en est la parité dans le cirque ?», à une table ronde pour un féminisme antifasciste. On pourra aussi se déhancher lors d'un bal féministe, tout un programme où se rencontrent art et engagement politique. Et puis, si vous allez sur le site, vous pourrez lire un très beau manifeste « Nous sommes incandescentes » qu'on vous laisse découvrir. Et les incandescentes, donc le festival, c'est du 29 au 31 aux Grandes Voisines à Francheville, pas très loin de Lyon. Et Les Incandescentes, c'est aussi un site internet avec un répertoire de pièces de cirque féministe. Très intéressant, allez-y.
Et puis monter des festivals, des collectifs entre femmes et minorités de genre, ça a du sens. On a l'impression que c'est vraiment ce qui fonctionne. On fait un dernier retour sur le collectif projet.pdf avec Coraline Léger et l'intérêt de ces espaces.
Ça change énormément de choses, en fait. Pour juste faire une petite parenthèse avant de répondre à la question, c'est quelque chose qu'on ouvre aussi sur l'extérieur, dans les ateliers qu'on propose. On en propose tout un tas, que ce soit des ateliers de portée, des rencontres. Récemment, on a fait un cercle de femmes sous chapiteau, donc accueillir des femmes de différentes associations et réfléchir ensemble à un projet de territoire et tout ça. Et en fait, à chaque fois, ça, les personnes qui vivent ça le notent, le remarquent et en parlent et disent que ça fait du bien, que c'est des espaces dont elles ont besoin, où elles peuvent s'exprimer. En fait, c'est ça. Je crois que le premier truc, c'est qu'on peut s'exprimer, qu'on ose s'exprimer, qu'on arrive à s'exprimer. Et déjà, ça, c'est vraiment énorme, sans se faire couper la parole, sans qu'on nous dise que ce qu'on dit est faux. Enfin, voilà, c'est un collectif qui essaye de faire une place à chaque parole, qui essaye de laisser différentes idées, qui s'écoute. Évidemment, on reproduit aussi des schémas de domination et tout ce qu'on veut. Je ne vais pas vous vendre un monde parfait, ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, on l'entend, on le voit, on le note, on essaye de revenir dessus, on y réfléchit, on s'empare de beaucoup d'outils. On a beaucoup d'outils. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que ce collectif existe, donc on a beaucoup d'outils pour fonctionner ensemble. Et après, je crois que c'est aussi très empouvoirant. Je ne trouve pas ce mot très joli, mais je trouve qu'il raconte très bien ce que ça fait. En fait, ça nous donne beaucoup d'énergie aussi de se sentir capable. Moi, par exemple, ce projet Chapiteau, ça faisait des années que je l'avais dans la tête. Et c'est la première fois que je suis arrivée en résidence, parce que du coup, moi, je suis rentrée dans le collectif en janvier 2021 pour une reprise de rôle sur le premier spectacle, pour un remplacement. Et vraiment, c'est cette première semaine-là où je me suis dit, ouais, mais en fait, ce projet CHAP que j'ai dans la tête, c'est là qui fera sens, justement aussi pour cette question d'empouvoirment et de juste se dire, mais bien sûr qu'on est capable, en fait, c'est sûr qu'on est capable, qu'on peut le faire, et juste allons-y. Je pense que ça nous aide aussi à prendre, en tout cas pour ma part, je vais parler pour moi, ça m'aide aussi à prendre confiance et à avancer. Ça me retire ce besoin de validation masculine qu'on m'a appris toute ma vie. Et là, j'apprends à m'en dédouaner, en fait, à faire sans. Et voilà, pour y répondre rapidement. Mais je pense que vraiment, le point principal, c'est qu'on s'écoute et qu'on a la place d'exister, quoi.
La place d'exister par le cirque. On conclut là-dessus, mesdames. Vous êtes d'accord?
Allez.
Merci à vous trois, Lisa Curti, Françoise Philippon et Catherine Léger. Merci à Coraline Léger et à Violaine Dutroux au téléphone.
Merci à Jimmy à la technique.
Et merci à vous, Joël, Michel et Natacha. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.